Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Qui puisse louer à des séminaires. C'est une femme charmante qui m'en a donné l'idée.
Bon, nous verrons. Mais ne lui en parle pas. Si je ne l'achète pas,
elle lui dit, malheureusement, je lui en ai déjà parlé. Le vendredi après-midi, Maurice prend sa voiture pour Lyon. Arrivé à Lyon, il se dirige vers Oullins. Il a arrêté sa voiture dans le centre de la petite ville pour demander son chemin. Le chauffeur sort de voiture. Et va à une boulangerie pour se renseigner. Il est entré. Il va au comptoir. Une femme grosse et blanche, blonde.
Vous désirez, monsieur?
Oui, j'aimerais. C'est savoir comment on peut aller au château.
Au château? Ah oui, le château. Mais qu'allez-vous faire là-bas?
Pourquoi?
C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit bien gai. Et l'on me dit des choses sur ce château, des choses bizarres.
Quoi, par exemple?
Eh bien, il s'y passe de drôles de choses. Qu'il rentre des jeunes filles et qu'elles n'en ressortent pas. Et puis, il y a bien longtemps de ça, il y a eu un crime étrange, horrible.
Le chauffeur lui dit, j'ai pas bien le temps. Vous me reparlerez de ça une autre fois.
Comment faisons-nous pour y aller? Attendez, je vais vous montrer.
Et elle sort du magasin avec lui.
montre la rue à prendre. Après, vous tournerez à gauche. Vous verrez cette petite rue étroite et c'est là.
Merci, madame.
Et elle retourne à son magasin. Retourne à la voiture et entre.
Bien, Maurice. Monsieur, je sais comment y aller, mais le château a très mauvaise réputation. Il paraît qu'il y a des jeunes filles qui disparaissent et il y a eu un crime horrible.
Elle a voulu m'en dire plus, mais comme nous étions pressés...
Maurice sourit et lui dit, ne vous faites pas de soucis. Ce sont des histoires. Un château amène toujours des légendes.
Et le chauffeur met la voiture en route.
Ils arrivent enfin dans la rue. Où il y a le château, une petite rue étroite, encore pavée, avec des petites maisons individuelles, et tout le long de la rue, un haut mur sombre, avec à son milieu un portail de fer à deux battants, un peu rouillé. Comme le mur est haut et que la rue est étroite, on n'a pas assez de recul pour voir le château qui doit être, en plus, au fond d'un parc.
Sort de voiture, il va vers le portail, tire le coulisseau lyonnais, une clochette retentit. Quelques minutes d'attente, des pas sur le gravier, le portail s'entrouvre, apparaît une tête d'homme, maigre, à cheveux grisonnants, casquette et veste de garde.
Qu'est-ce que c'est ? Le
chauffeur lui dit. Nous sommes Franc-Blanc. Nous avons l'autorisation de visiter le château pour une éventuelle acquisition.
Ah, je vois. Je vais vous ouvrir.
La tête se retire et... on ouvre le portail. Le chauffeur retourne à la voiture, il entre et la met en route.
Apparaît un parc, c'est-à-dire un pré, avec des arbres,
une avenue de gravier entre deux rangées d'arbres. Et au bout de l'allée, le château, Jean 18e, trois étages avec moulure, terrasse sur le devant qui donne à l'entrée du château par une double porte-fenêtre qui a des volets verts. Tous les volets sont verts et la demeure est grise. La terrasse est délimitée par une rampe et quatre grands pots fleurs de 1,50 m environ. Le tout donne un côté très majestueux, mais à l'échelle humaine et de bon goût. Le mur qui délimite le parc, lui, a des haies, des arbustes. Le pré a de grands arbres centenaires. La voiture file sur le chemin de gravier. Le garde a fermé le portail et
court pour devancer la voiture jusqu'au château. Maurice regarde tout ça satisfait. Il se dit que ça ferait très bien pour le siège, pour recevoir les notables du coin et se loger ici aussi. Il voit qu'il y a dans le pré des bancs de pierre sans dossier et sur la terrasse aussi. Il voit que le parc n'est pas très abîmé. Il a un côté vieux, mais juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut à l'abandon pour qu'il puisse vieillir comme il faut. La voiture va s'arrêter devant la terrasse. Le chauffeur sort de voiture et ouvre la portière à Maurice. Le garde vient vers eux. Il est habillé en garde, veste cintrée et pantalon vert, dit à Maurice. Je veux bien le suivre. Maurice le suit. Il ouvre la porte du château. Ils entrent dans un hall carrelé, carreaux noirs et blancs. De chaque côté se trouvent des portes. Au centre, des escaliers de pierre avec une belle rampe moulée. La tapisserie du mur n'est pas très propre et même il y a des taches d'humidité. Maurice dit au garde, l'eau passe dans le mur, regardez l'humidité. Le garde ne dit rien. Le plafond avec une moulure et tout craquelé. Il y a des toiles d'araignée. Maurice voit que ce n'est pas très propre. Il y a beaucoup de poussière et de toiles d'araignée. L'électricité est à refaire. L'interrupteur en bois, etc. Le garde lui montre les étages. Le troisième étage, qui est dernier, avant le grenier, long couloir, en parquet. D'un côté, il y a des fenêtres et de l'autre, les portes. Il y a sur le mur de grands tableaux défraîchis, mais bien du 18e ou 19e. Ce sont les chambres. Et petit salon avec boudoir. Il lui montre les pièces. Elles sont toutes moulées, meublées de meubles d'époque, mais bien délabrées et très sales. Il y a même les lits faits. Tout est sale. Les fenêtres, les murs, la salle de bain, la tuyauterie est à revoir. Au deuxième étage, ce sont les salons. Petit salon. Grand salon, fumoir, bibliothèque et bureau. Il y a trois petits salons, quatre fumoirs et deux bureaux. Et une très grande bibliothèque. Les meubles sont très beaux, mais à restaurer. Les tapisseries qui étaient en tissu moiré de soie de très belle qualité sont dans un état déplorable. tâcher. Bien entendu, à changer, malheureusement. Au premier étage, il y a salle à manger. Autre salle, bureau et salle de jeu. Là aussi, tout est à revoir. Il y a de très belles choses, mais elles sont à restaurer ou carrément à jeter. Au rez-de-chaussée, le service, cuisine, grande pièce carrée, toute noire, avec de vieilles cuisinières à charbon, buffet, table de bois. Là, tout est à jeter. La laverie, la buanderie et les chambres des domestiques dans un tel état qu'il faudrait tout démolir. Maurice dit au garde.
Je pense que la toiture doit être à refaire. Les chéneaux, la tuyauterie, le grenier doit être plein de santé, à jeter comme les caves, le garde lui dit.
Malheureusement, oui, monsieur, Maurice lui demande.
Vous vivez ici?
Non, j'ai ma maison au village.
Maurice lui dit. Le jardin, c'est vous?
Oui, monsieur.
Bien, il est bien. La façade de la maison aussi. Je vais réfléchir un peu et téléphonerai à l'agence pour me donner la réponse.
Bien, monsieur. Le garde se retire. Maurice sort de la maison.
Réfléchit en faisant les 100 pas dans le parc. Il se dit,
c'est délabré, mais je suis du métier. Pour ce qui est des meubles, certains iront au château en Bourgogne. Dans une maison, ce qui compte, c'est la charpente, le gros œuvre. Bon, les murs sont costauds. À part quelques fissures qui doivent faire passer l'eau. C'est du bon ouvrage qui peut encore durer 500 ans. Le parc est bon et dans l'ensemble fait bien. Bon goût, pas nouveau riche, ça fait sérieux. Pour le siège, c'est mieux que ces trucs en verre sans arbre que tout le monde a. Là, je serai le seul à avoir un siège dans une demeure comme celle-là. Ça donne du cachet à la société et du sérieux. Solide et de l'ancienneté et du bon goût. Ça démontre qu'on est capable, c'est d'apprécier les belles choses. Et que le moderne, à tout prix, une entreprise doit démontrer qu'elle est d'avenir, mais dans un siège moderne. Nous sommes d'avenir avec des fondements sur le passé. Un avenir qui a une base, des traditions, un savoir-faire. Voilà une belle publicité que je vais faire en achetant ce château.
Prends son téléphone portable, fait le numéro de l'agence.
Agence de Vaux, je suis Franc Blanc. Je vous téléphone pour vous donner ma réponse pour l'achat du château d'Oulin, 69. Merci. Allô? Oui, je prends le château. Je l'achète, mais je le trouve bien délabré. Il y a beaucoup de réparations à faire. La toiture, les fissures sur la façade. L'intérieur est entièrement à refaire. L'électricité,
sanitaires, murs, plafonds, etc. Sans parler des meubles, plus bons à grand-chose, les greniers et les caves à vider, les gouttières aussi est à restaurer. Cela va beaucoup m'engager de frais. Et d'après vos photos, c'était pas aussi délabré. Le château va me coûter pas mal d'argent. Un prix assez bas. Car vous m'avez proposé une ruine. Une belle ruine, mais une ruine. Bien sûr, ce sera mon entreprise qui va s'en occuper. Mais il va falloir tout de même payer les ouvriers et le matériel. Tout ça n'est pas gratuit. Bien, vous faites 20% de moins. Merci. Bien, alors, je viens signer la vente avec mon notaire, disons lundi. Ah, c'est à Lyon que ça se fait. Eh bien, ma foi, Lyon. Maître Chêne, bien. Quelle heure? Vous allez lui téléphoner. Bien, prévenez-moi le plus vite possible pour l'heure. Moi, je suis libre lundi après-midi. Allez. Ah, au fait, votre château est très mauvaise réputation. Il y a des jeunes filles qui disparaissent et il s'est passé un crime horrible. La ville maudit ce château. Allez, à lundi. Il range son téléphone portable et dit à son chauffeur. Oh, nous allons partir. Avant, nous prendrons une petite collation au centre-ville. Bien, monsieur. Le garde va vers eux. Vous nous quittez? Oui. Mais ne vous faites pas de soucis, j'ai acheté. Nous nous reverrons sûrement, à moins que vous ne vouliez pas travailler pour moi. Bien au contraire, monsieur. Et puis, j'aime bien cet endroit. Bien, alors à bientôt. Il entre dans la voiture. Et il se dirige vers la sortie du parc. Le garde les précède pour leur ouvrir le portail et le fermer. Et il se dirige vers le centre d'Oulin. Arrivés au centre d'Oulin, ils sortent de voiture. Et ils se dirigent vers un petit restaurant tout simple, pas très grand. Le restaurant fait aussi bar. Femme petite, un peu forte, cheveux châtains, habillée d'une robe, disons marron, vieux, va vers eux. Vous désirez, messieurs? Maurice lui dit, nous restaurer. Elle lui dit, mais il est trop tard ou trop tôt. Vous pouvez pas nous trouver quelque chose à manger? Nous devons repartir pour Paris. Elle lui dit, asseyez-vous, je vais voir. Elle lui montre une table, ils s'assoivent et elle s'éloigne. Puis elle revient. Elle leur dit, je peux vous servir du poulet froid, une salade et un plateau de fromage. Cela vous va?
Oui, très bien. Avec une carafe de rouge.
Bien, messieurs. Et elle s'éloigne. Puis, elle revient mettre le couvert puis apporter la salade.
Mange tranquillement, la femme est revenue au bar.
Est entré un homme grand, maigre, cheveux gris, habillé d'un pantalon et d'une veste velours marron. Il va au bar et dit « Un demi ». Elle le sert, voit les deux hommes et leur dit « C'est vous qui allez acheter le château ?» Henri se regarde surpris. L'homme lui dit « J'ai reconnu votre voiture qui entrait dans le parc du château. » Maurice lui dit « Oui, pourquoi ?»
Pour rien, mais cela fait bien 50 ans qu'il n'est pas habité. On n'a jamais réussi à le vendre ou à le louer. C'est un château plein de mystères horribles.
Maurice lui dit, j'ai pas peur des fantômes. L'homme lui dit,
non seulement pas des fantômes, parce qu'on les a vus entrer et sortir. Des hommes, des femmes, habillés comme des croque-morts. Les voisins disent qu'il y avait des cris horribles là-dedans.
Maurice lui dit. Et alors ? L'homme lui dit.
Et le crime d'il y a 50 ans ?
Maurice lui dit.
Il y a 50 ans de ça. Et puis les cadavres ont été enlevés. C'est le principal. 50 ans si l'on veut. Parce que de temps en temps, il s'y passe de drôles de choses.
La servante dit à l'homme,
arrête et laisse mes clients tranquilles. Bon, ça va.
Termine son verre et dit,
en tout cas, la voiture, on l'a revue.
Et il sort.
Des histoires de vieux, tout ça. Oui, des histoires de vieux.
Après avoir fini leur repas, ils ont repris la route.
Arrivé à Paris, chez lui, Maurice va retrouver sa femme au salon. En face d'elle. J'ai acheté le château, mais il est dans très mauvais état. Il y aura beaucoup à faire.
Pourquoi l'as-tu acheté, alors ?
Parce qu'il a belle allure et que ça fera une très bonne impression pour le siège. Les meubles sont aussi à jeter ou à remettre au château de Bourgogne. Tu verras enfin. Demain, je signe, à Lyon, malheureusement. J'y vais en début d'après-midi. Entre parenthèses, la ville est minable, sinistrée. Tout est à refaire. Si on pouvait même changer les gens aussi. Tu te rends compte, ils ont même dépensé une fortune pour un tramway à notre époque. Sous prétexte que des petites villes en avaient un et qu'une vingtaine de ploucs manifestaient devant l'hôtel de ville tous les samedis après-midi pour en demander un. Ils en ont fait un qui a coûté une fortune et qu'il faut maintenant démolir les infrastructures. De vrais ploucs, ces gens. Ta capitale des Gaules, il leur faudra enlever une sacrée crasse aux citoyens de cette ville pour qu'elle le devienne vraiment. Elle lui dit,
mais avec toi, je suis sûr qu'ils y arriveront.
J'ai soif.
Qu'est-ce que tu veux? Un bourbon.
Elle appuie sur la sonnette. L'on frappe à la porte.
Entrez!
C'est la bonne.
Un bonbon, s'il vous plaît.
Viens, madame. Elle ferme la porte. Elle lui dit,
tu fais les papiers au nom de ton fils?
Oui, mais je suis sûr que ça ne lui plaira pas.
Plus tard, il sera bien heureux d'avoir le château pour se faire une petite rente.
Le lendemain après-midi, il part pour Lyon. À 18h, il est chez Maître Chêne avec le directeur de l'agence. Le notaire est un homme grand, mince, cheveux blancs, costume gris. Ils sont dans le bureau du notaire, Maître Chêne, fils. Fils dit,
nous allons procéder à la vente. Maître Genet représente la famille qui vend le château, la famille Gourcel, qui leur a donné plein pouvoir pour la vente.
Maurice dit, j'achète le château au nom de mon fils, pour mon fils.
Le directeur de l'agence lui dit,
voilà une bonne résolution, c'est parfait.
Et ils ont signé. Maître Genet a donné les clés du château. Puis, ils sont allés boire une coupe de champagne.
Maurice leur dit, cette vente inaugure mon entrée dans Lyon pour les travaux que je vais y faire.
Deux mois plus tard, Maurice, avec une équipe, est l'acheteur
une équipe de différents corps de métier vont visiter le château pour la rénovation. Toute la toiture est délabrée. Première des choses à faire, c'est de débarrasser les meubles pour laisser de la place aux ouvriers. Maurice fait venir sa femme pour qu'elle choisisse les meubles, qu'elle les prenne pour les amener au château de Bourgogne. Elle en prend pour les faire restaurer et mener au château. Maurice trie ce qui reste, geste ce qui doit être jeté, meubles, linge, cuisinière, etc. Garde quelques meubles qu'il fait restaurer à un restaurateur de la rue des Chartreux sur les portes de la Croix-Rousse dans le premier arrondissement. Puis, il faut vider les greniers et aller voir les caves. Descend à la cave avec un architecte. C'est la première fois qu'il y va. Les escaliers sont glissants. C'est humide.
Faudra savoir pourquoi cette eau coule sur les escaliers. Tiens, monsieur.
Arrivé en bois, c'est un couloir de cave, plafond en voûte, terre à terre, porte de bois, vieux, sale et humide. Il y a des toiles d'araignée de partout et ça sent une très forte odeur d'humidité. Il n'ont pas les clés de la porte, il défend ses portes. Les serrures sont rouillées. Première porte qu'ils voient sont vides.
Tant mieux.
Ils en ouvrent une autre. Il y a un lit en fer, une armoire, une table de nuit et une chaise. C'est sale et plein de toiles d'araignées. L'armoire est vide.
On dirait une cellule bizarre.
Dans une autre cave, la même chose. Mais en plus, il y a un matelas qui a une grande tache sombre.
Tiens. On dirait, je sais pas, une tache de sang.
Dans une autre cellule, il y a une valise en carton. Dans l'armoire, il l'ouvre.
Il y a un calepin noir, couverture en toile noire. Maurice l'ouvre. Oh, qui a liste de noms.
À jeter. À jeter.
Dans une autre cellule, encore un matelas taché. Dans une autre, dans l'armoire, il y a un cintre, une robe noire toute simple. Elle semble propre et neuve. Le matelas est recouvert d'un drap blanc.
Bizarre. Bizarre.
Il voit une vingtaine de cellules comme ça, tout abandonnées et meublées de la même chose. Dans une cellule, ils voient un seau et un couteau rouillé de cuisine.
Maurice dit, vous jetterez tout ça. Avec le grenier. La corde servira d'archive et de centrale ordinateur, bien gelée de l'humidité. Bien, monsieur. Et ils sortent de la corde.
De cellules intrigue Maurice. Il va demander aux gardes qui s'appellent Martin. Tous ces gardes s'appellent Martin. Il va le voir dans le parc.
Voir dans le parc, il est en train d'enlever les feuilles mortes.
Martin, j'ai visité les corves. Qu'est-ce que ces cellules ?
Martin lui dit,
je sais pas, monsieur. Quels étaient les anciens propriétaires ?
Il lui dit,
des religieuses. On leur a donné le château parce qu'ils ne pouvaient pas le vendre. Personne n'en voulait. Mais comme ça coûtait cher de l'entretenir, autant qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur gratuitement pour l'entretenir. Ces religieuses en ont fait une maison pour filles perdues, maison de correction comme on disait avant. Les cellules c'était peut-être pour les religieuses.
Martin, Maurice lui dit,
on dirait qu'il y a du sang sur les matelas. Je ne sais pas. Et dans une cellule, il y a une robe en toile noire qui semble neuve. Peut-être a-t-elle été conservée. Merci, Martin.
Et il s'éloigne. Thank you.
nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.